On s'intéresse maintenant à la guerre des drones lancée par Vladimir Poutine. Oui, je suis d'accord, c'est un tout autre sujet. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Je vais accueillir mes prochains invités sur Vladimir Poutine, qui nous déclare donc la guerre dans les airs. Et si notre ciel était devenu le nouveau terrain de jeu du président russe? Décidément, regardez sur cette carte, le Danemark est devenu une cible pour les drones. Le pays annonce un nouveau survol, cette fois au-dessus de la plus grande base militaire du pays. Pour en parler, on est avec Inzian. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancienne conseillère auprès de politiques américains. Alors, j'ai qui autour de mon plateau? Général, bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Gomard, donc ancien directeur du renseignement militaire, député européen LR, merci d'être avec nous. On est aussi avec Tore Keller, correspondant en France du média danois Dagbladet Information, je l'ai bien dit.
Excellent.
Merci, vous pouvez rester donc. On est aussi avec le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être là. Historien militaire et docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. Thierry Arnaud, bonsoir.
Bonsoir, Émilie.
Éditorialiste politique internationale BFM TV. On est également avec Cyril Gélipter. Bonsoir. Docteur en histoire et spécialiste des renseignements russes. Décidément, c'est une obsession. Alors, vous allez me dire si c'est la Russie qui est derrière tout ça, mais en tout cas, le Danemark qui est harcelé ces derniers jours. Regardez ce que dit la police danoise à l'AFP. Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne de Karup. Nous ne les avons pas abattus. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup, on le voit avec ces différentes incursions ces derniers jours. Général, le Danemark semble harcelé.
Oui, alors on prête corrige, donc effectivement on suppose ou on pourrait supposer que ce sont les Russes. Aujourd'hui, rien ne le dit réellement, même si on peut supposer qu'effectivement ils ont intérêt à voir comment réagit l'OTAN, mais même si je m'interroge en disant mais quel est leur intérêt de voir comment réagit l'OTAN, parce que je pense qu'ils ne veulent pas aller à une troisième guerre mondiale. Or, on sent que petit à petit, on nous amène à penser que ça pourrait arriver. Donc aujourd'hui, ces drones, autant ceux qui ont survolé la Pologne et la Roumanie sont bien des drones russes, autant dans le cas de Copenhague et dans le cas de l'Allemagne, en réalité, nous ne le savons pas parce que d'abord, ils n'ont pas été abattus. Ça se passe la nuit, mais peut-être que notre ami danois en sait peut-être plus que moi sur ce sujet-là.
Bah, Tore Keller, justement, qu'est-ce qu'on en dit au Danemark? Est-ce que c'est une inquiétude qui monte, cette menace russe notamment?
C'est sûr, il y a une angoisse dans la population danoise autour de ça aussi parce qu'on n'a pas les explications. On ne sait pas d'où viennent ces drones-là, on ne sait pas d'où ils sont partis après avoir fait leur travail. Donc, c'est vrai que dans la population danoise, il y a quand même beaucoup de doutes et on commence aussi à débattre sur est-ce qu'on a été bien préparé pour tout cela. On sait que maintenant, les autorités sont en train d'acheter ou demander aux voisins de donner de l'équipement pour battre ces drones-là. Donc, il y a un débat très profond au Danemark sur est-ce qu'on a été bien préparé pour cette situation-là.
Mmh. On le disait, ça fait beaucoup pour le Danemark cette semaine. Il y a eu le déclenchement d'une alerte vendredi, la détection de survol de 4 aéroports danois, le survol de Copenhague lundi soir. Colonel, je me trompe un petit peu dans les intitulés, vous me pardonnerez. Colonel, c'est vrai que le Danemark est devenu la cible de toutes ces incursions. Est-ce qu'il était possible d'abattre ces drones qui ont survolé le pays ces derniers jours?
De nuit, c'est toujours difficile. Et puis, avec quelles armes? Il y a toujours des effets collatéraux possibles lorsque vous abattez
C'est trop risqué pour vous?
Si vous voulez, oui, il peut y avoir des effets collatéraux. Vous tirez avec des mitrailleuses ou un canon sur des drones. Si vous voulez, c'est un petit peu, on n'est pas sur un champ de bataille. L'intérêt, ce qui est visé, si ce sont les Russes, c'est plus la population danoise, l'opinion publique danoise, ou l'opinion publique norvégienne, voire allemande, au Schleswig-Holstein, pour effectivement faire un peu poser des questions à des pays qui soutiendraient de trop près l'Ukraine. En fait, c'est pour que ces pays, que l'opinion publique de ces pays fasse une pression sur leur gouvernement de manière à ce qu'ils ne soutiennent pas trop l'Ukraine. Mmh. C'est l'intérêt de ce genre de choses, je pense.
Alors, c'est vrai que les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier les responsables de ces incursions. En revanche, regardez ce que dit la première ministre danoise. C'était il y a seulement deux jours. Il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, et c'est la Russie. Thierry Arnaud, qu'est-ce qui nous dit que la Russie est derrière ces incursions?
À qui profite le crime? Qui a intérêt à procéder à de telles manœuvres, à susciter cette hostilité, à venir chatouiller, harceler, perturber? Parce que lorsqu'un aéroport ferme pendant plusieurs heures, comme ça a été le cas de l'aéroport de Copenhague et d'un autre aéroport du Danemark, ça perturbe le fonctionnement du pays. C'est aussi une façon, évidemment, de tester les défenses, comme le général l'a dit. Donc, effectivement, elle n'est pas le seul à le dire. La première ministre danoise, le commissaire européen à la défense l'a dit également. Tous les regards se tournent assez naturellement vers la Russie, même si, encore une fois, rien n'est prouvé à ce stade.
Oui, Indiane, c'est vrai que quand on voit que ces attaques sèment la peur aussi, notamment dans plusieurs populations européennes, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça ressemble terriblement à la signature russe?
Oui, absolument. Après, tant que nous n'avons pas de preuves tangibles, c'est difficile de se prononcer de manière
néanmoins,
définitive.
Néanmoins, elle s'avance quand même, la première ministre danoise.
Oui, effectivement, mais je rappelle aussi que, par exemple, la ministre de la Défense espagnole avait eu des propos sur le fait qu'il y aurait eu un brouillage GPS et finalement, il n'y avait pas eu de certitude de la part du gouvernement. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de certitude qu'il ne faut pas prendre la menace au sérieux et il ne faut pas se préparer et mettre en place le plus de protection possible. Et je pense qu'une des plus grandes protections pour l'Union européenne et pour un pays comme le Danemark, c'est aussi l'investissement massif dans les drones et dans les drones modernes. Et on a, que ce soit dans l'Union européenne ou à alors même aux États-Unis, on a pris un retard en termes de drones modernes, retard par rapport à l'Ukraine, retard par rapport à la Russie, mais retard aussi par rapport à la Chine, qui est bien meilleure que nous, surtout dans les petits drones qui ne coûtent pas très cher, et elle est capable de produire des drones en masse. Et ça, c'est quelque chose qu'a dit je ne sais pas si je devrais dire aujourd'hui secrétaire de la Défense, secrétaire de la guerre des États-Unis, mais en tout cas le ministre de la Défense et Pete Hegseth, en disant voilà, que les États-Unis ont pris tellement de retard dans cette guerre non traditionnelle que, en fait, si demain il y a un conflit, ils ne sont pas prêts si jamais ils font face à une puissance comme la Chine ou la Russie qui ont un nombre massif de drones qui sont capables de déployer très rapidement.
Oui, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait d'accord. C'est tout le problème de l'Union européenne et des pays européens, c'est qu'ils ne sont absolument pas prêts. 3 ans et demi après le début de cette guerre, de l'invasion russe de l'Ukraine, en réalité, c'est une guerre de drones, mais on n'est absolument pas prêt à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'armes anti-drones, on parle d'une barrière anti-drone, mais quelle est-elle aujourd'hui? On n'a pas les moyens. Si vous voulez, c'est ça. Il n'y a pas de prise en compte. Tout le monde en parle, comme ça vient d'être souligné, mais on n'a pas ça. Les Ukrainiens ont développé des savoir-faire anti-drones et drones offensifs, comme les Russes d'ailleurs. Mais nous, Européens, on n'a pas du tout pas pareil. Or, pourtant, le Danemark, je crois, est monté à 3,5% de son PIB pour sa défense. La première ministre danoise, a pris une décision très ferme, en effet, dans ce domaine-là, pour augmenter ses capacités défensives et offensives. Mais c'est pas le cas d'autres pays qui sont toujours en dessous des 2% du PIB en matière de défense.
Oui. Michel Polakov, vous êtes aussi avec nous, journaliste et aviateur spécialiste des questions de défense. Bonsoir. Vous êtes d'accord avec ça? On est complètement à la ramasse concernant les drones?
Alors écoutez, je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. Je trouve même que c'est relativement déplorable. Je pense qu'il y a un horrible amalgame entre les drones qui servent, entre Russes et Ukrainiens, à se battre et qui font la guerre, et toutes ces petites opérations sans intérêt qui se déroulent en Norvège, au Danemark. Ce sont des choses que nous avons connues depuis plus de 10 ans, 15 ans, à Gatwick en Angleterre, à Heathrow, à Roissy, à Orly, à Dubaï, à Dublin, etc., etc. En France, nous avons mis au point, sous l'égide du secrétariat général de la Défense nationale et de la sécurité, tout un tas d'outils qui ont été présentés plusieurs fois, et notamment dans des salons, si mes souvenirs sont bons, à Avignon, et puis dans d'autres instances, comme des salons comme Satori, etc., Le Bourget. Nous avons des outils que nous avons utilisés, notamment pendant les Jeux Olympiques, pour se protéger. Nous avons des outils très sophistiqués, et les Danois sont totalement nuls, ils n'ont qu'à s'en acheter, ils n'ont qu'à se prémunir. Il faut arrêter cette psychose anti-Poutine sur ces drones qui sont des drones ridicules. On est en train de confondre une vraie guerre avec ce que font des amuseurs ou des plaisantins à proximité de quelques sites sensibles. Alors peut-être qu'il y a quelques Russes qui sont entrés au Danemark avec des drones pour faire joujou près des aéroports, ça m'étonnerait. Je pense que pour l'instant, on est dans un phénomène tout à fait local qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine et qui consiste simplement à profiter de la bêtise et de la naïveté pour encourager la peur et la panique.
Je ne sais pas quel mot je vous ai piqué, mais vous êtes très réveillé ce soir, Michel Polaco.
Je vous donne la parole. J'ai peu de temps pour parler, alors j'en profite.
Ah bah si, vous avez le temps, on a largement le temps. Alors, vous parliez de petites opérations sans intérêt. Mais justement, Jean-Noël Barrot l'a évoqué aujourd'hui. Écoutez ce qu'il en pense. Il arrive.
Avec ces provocations, en Pologne, en Roumanie, en Estonie, on est encore en train d'essayer de déterminer l'origine des attaques de drones au Danemark. Donc je ne peux pas confirmer, à ce jour, on ne peut pas confirmer si oui ou non la Russie est impliquée. Mais avec ces manœuvres, que cherche à faire Vladimir Poutine? Il cherche d'abord à masquer son échec patent sur le front. Et ce faisant, il teste au passage trois choses. Notre capacité à nous défendre, il teste notre unité, et la troisième chose que Poutine teste, en plus de notre capacité à nous défendre, de notre unité, eh bien, c'est notre résolution.
Bon, général, pourquoi est-ce qu'il en parle si finalement ce sont des petites opérations sans intérêt?
Parce qu'il y a, c'est un peu ce que disait Michel Polaco. Je pense qu'on fait la même chose. On pense que ce qui s'est passé en Pologne est exactement ce qui se passe à Copenhague au-dessus de l'Allemagne. Or, on n'a aucune preuve de ça. Il y a autant ce qui s'est passé au-dessus de la Pologne, dont certains pensent que ça pourrait être lié au brouillage. En fait, sur la centaine de drones lancés par les Russes, en effet, il y a beaucoup de brouillage sur zone et certains ont pu se perdre en Pologne ou au-dessus de la Roumanie. Ça, c'est voilà. Je ne sais pas quel était le test russe, mais est-ce que c'était pour voir comment était organisée la défense, pour en effet faire peur? Mais ce qui s'est passé à Copenhague ou en Allemagne, pour l'instant, on n'est absolument pas sûr. Alors, est-ce que c'est ce que dit Michel Polaco, ces petits plaisantins qui veulent créer et voir comment ça réagit?
Mais ça fait beaucoup de plaisantins ces derniers jours.
Oui, c'est beaucoup de plaisantins. C'est ça, là, c'est une vraie question.
Justement, deux possibilités. Première possibilité, c'est l'effet boule de neige, et ça, nous l'avons déjà vu en France sur d'autres sujets. Quelqu'un fait une plaisanterie, ça fait du boucan, donc d'autres plaisantins. Oui. Mais quand même, c'est quand même... on en voit quand même pas mal, donc ça interroge. C'est ça qui me tracasse.
Et dans les drones, vous avez plusieurs types de drones. C'est des petits drones ou c'est des gros drones.
Sur plusieurs pays, c'est ça qui me d'affilée, c'est ça qui me tracasse. Et je me pose juste après. Et il y a une autre chose. Je constate, si nous partons hypothèse purement hypothétique, ce serait un coup des Russes. Très bien. Pourquoi? Hypothèse possible. Nous n'arrivions pas d'évoquer à titre hypothétique l'envoi de troupes en Ukraine pour après la fin du conflit. Je pense que au niveau des états-majors, on s'est aussi posé la question d'envoyer des troupes durant le conflit. Sauf que là, du coup, l'hypothèse du coup est mise de côté. Mon Dieu, il y a des drones potentiellement russes qui tournent au-dessus de nos aéroports, de nos installations. Sous-entendu de la part des Russes, si ce serait eux, je dis un gros si. Écoutez, allez-y, messieurs, mais dans ce cas-là, nous avons les moyens de foutre par terre vos installations. Donc l'hypothèse, du coup, tout le monde est obligé de se mettre en défensif.
Colonel, je vous donne la parole dans un instant, mais je vais me faire gronder par Michel Polaco s'il n'a pas la parole, puisqu'il est déjà en train de s'impatienter. Allez-y.
Non, je ne faisais pas de signe d'impatience. Simplement, je dis que ça se passe au Danemark et ça se passe en Norvège. Eh ben, vous voyez, ça se passe pas à Paris, ni à Marseille, ni à Lyon, ni à Lille. Pourquoi? Parce que je peux vous dire nous avons...
Mais alors, Michel Polaco, que s'est-il passé à Mourmelon-le-Grand, justement? C'est vrai qu'il y a quelques incertitudes. Je rappelle juste qu'il y a des drones suspects qui ont été repérés au-dessus de cette base militaire. Donc, c'est dans la Marne, c'est en France.
Oui, d'accord, ok. C'est pas un site sensible. Il y a un régiment de chars d'assaut, le 501e RC. Je vais vous dire qu'avant qu'on ait détruit les chars avec des drones de la FNAC, il va y avoir beaucoup de temps qui va s'écouler. Vous voyez? Et c'est vrai que
donc
si
pour
véritablement
vous, on crie avant d'avoir mal, Michel Polaco?
Pardon?
On crie avant d'avoir mal, Michel Polaco?
Non, mais on fait de l'amalgame. Encore une fois, quand on a eu, en 2013, 2014, 2015, un certain nombre de gens qui se sont attaqués avec des petits drones comme ça à des sites comme les centrales nucléaires, certaines bases militaires, le palais de l'Élysée, l'avenue des Champs-Élysées, la tour Eiffel, etc. Ça a été vent de panique. Bon, il se trouve que du coup, On a développé tout un tas d'outils. Et puis, en même temps, bon, l'utilisation militaire des drones commençait à devenir évidente. Donc, on a développé des outils très sophistiqués. Aujourd'hui, on ne va pas installer ces systèmes à côté de toutes les bases et de tous les camps militaires et demander à des gens d'être en alerte 24 heures sur 24.
Donc, il ne faut rien faire, Michel Polaco ?
Pardon ?
Il ne faut rien faire, alors ?
Ben, il faut faire. Si on a des choses à protéger, il faut les protéger. Si c'est ce genre d'opération, comme on l'a vu à Copenhague, etc., oui, il faut protéger les aéroports. C'est ce que fait Aéroport de Paris. Demandez au patron d'Aéroport de Paris quels sont les dispositifs qui sont en fonctionnement 24 heures sur 24, même à Orly et même aux heures de couvre-feu quand l'aéroport est fermé, pour éviter que des gens viennent faire joujou avec des drones à proximité de l'aéroport. Ben, c'est pas possible, et s'ils le font, ils seront piqués.
Colonel.
Oui, moi je voudrais compléter quand même ce que dit Monsieur Polaco. Le ministre allemand de l'Intérieur a dit que lui, il avait vu, enfin, on avait rapporté sur des comptes rendus assez précis, des essaims de drones qui étaient dans la frontière du Danemark. Donc c'est pas un drone qui se balade de part et d'autre. Et puis même, il n'y a pas que les aéroports, ils peuvent très bien. Ça peut être un test. Ils peuvent très bien, avec un drone armé, lancer une grenade ou une petite bombe sur un supermarché. Ça peut être du terrorisme. Et c'est là où le terrorisme d'État rejoint la menace. En fait, la menace, elle n'est pas simplement sur les aéroports. La menace, elle est partout où il y a des citoyens. Et donc, ce genre de système qui peut susciter la terreur au sens primaire du terme, comme autrefois les anarchistes lançaient une bombe sur un carrosse présidentiel, ça peut très bien exister. Et c'est ça, si ce sont les Russes qui sont derrière, c'est ça qu'ils testent, c'est la résilience effectivement des populations.
Vous pensez qu'il faut prendre ça au sérieux.
Moi, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. De même que dans les années 2015, mais c'était certainement d'autres acteurs, terroristes ou autres, qui pouvaient vouloir déranger nos services publics. Et effectivement, lorsque nous ne sommes pas en guerre, et là où M. Polaco a raison, c'est que c'est complètement à différencier de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Là, on est dans des sociétés pacifiques qui cherchent simplement à se protéger de terroristes, c'est-à-dire y compris des terroristes qui puissent larguer une bombe aléatoirement sur un supermarché, une station-service. Qu'est-ce que font les Russes en Ukraine ? Ils attaquent bien sûr les gens qui sont sur le front, mais ils attaquent aussi les villes de manière aléatoire, en faisant là 3 ou 4 victimes, ailleurs 5 ou 6, avec des drones, avec des petits drones.
Ce ne sont pas des opérations militaires. Un danger, Torek Keller.
Oui, juste pour ajouter quelques circonstances qui existent aussi. Déjà, il y a un climat entre le Danemark et la Russie qui est un peu dense là pour le moment, parce que le Danemark a fait plusieurs annonces. Par exemple, on a dit qu'on va mettre en place une production de missiles à longue porte au Danemark ukrainien. Donc, les Ukrainiens vont produire ça au Danemark. Le Danemark a dit qu'on va investir nous-mêmes aussi dans un système pareil.
Donc la Russie a pu se sentir visée par.
On a vu le discours de l'ambassadeur de la Russie au Danemark. Il a dit que c'est pas normal qu'on menace un pays qui a des bombes nucléaires. Donc il a dit ça directement au Danemark. Donc c'est juste pour ajouter que la raison pour laquelle c'est évident pour beaucoup de Danois qu'il s'agit des Russes. Je dis pas que j'ai la confirmation, mais c'est la sensation qu'il y a dans la population au Danemark.
Il y
a déjà cet climat entre le Danemark et la Russie qui existe.
Oui, Indiane.
J'aimerais aussi réagir sur un point qui est important. Il y a un rapport qui est sorti en 2025 sur le fait que nous, en Europe, on avait un retard sur les drones, notamment les drones qui fonctionnent à l'IA, les drones qui permettent la guerre en essaim, les drones autonomes. C'est une réalité. Il faut regarder en face parce que c'est la réalité du marché aujourd'hui. Le rapport dit, par exemple, que c'est dû à un manque de compétitivité, enfin on va dire un marché qui permette aux entreprises et aux start-up européennes qui fonctionnent au drone, à l'IA, de pleinement s'épanouir. C'est aussi une compétitivité internationale, une compétition internationale qui est extrêmement difficile pour les entreprises européennes qui doivent suivre une réglementation qui est parfois difficile. Et puis, c'est aussi un marché public, généralement, qui est beaucoup plus lent et beaucoup moins ouvert à l'innovation. Et donc ça, c'est une réalité. Et il faut accélérer notre investissement dans ce genre de drone. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de drone, drones et qu'on n'a pas de matériel efficace, mais il y a des drones, notamment les drones à l'intelligence artificielle, la guerre en essaim. La Chine aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, a présenté un porte-drone qui est capable de larguer 100 drones kamikazes, de faire 7200 km, de parcourir 7200 km. On a besoin de rattraper ce petit retard qu'on n'a pas dans le domaine des drones en général, mais dans les drones comme aujourd'hui ils sont utilisés par les grandes puissances comme la Chine, la Russie, mais aussi comme l'Ukraine. Et c'est un peu ce que disent les États-Unis aussi, mais évidemment, eux, ils ont déjà mis en place pas mal de choses pour éviter que ce retard avec la Chine, notamment sur l'IA et les drones, ne les pénalise sur le long terme.
On sent en tout cas une montée en tension. C'est l'OTAN qui se dit ce soir, général, prête à défendre chaque centimètre de ses territoires. Elles se sont clairement menacées. On sait d'ailleurs qu'il y aura une réunion au Danemark avec les différents chefs d'État européens. Emmanuel Macron en fera partie. Il sera aussi question de ce mur anti-drone. Est-ce que l'OTAN est réellement plus menacée que d'habitude aujourd'hui ?
Non, la question qui se pose aujourd'hui, et on en parle de plus en plus, c'est que se passera-t-il dans 2 ou 3 ans, parce qu'on imagine que les Russes ont remonté leur capacité pour attaquer éventuellement un autre pays de l'OTAN. Et les gens imaginent que ça pourrait être très bien l'un des 3 pays baltes, voire la Finlande, voire la Pologne. Et donc tout le monde est dans cet état d'esprit, et tout le monde se dit que finalement ces drones sont une mise en alerte, en effet, sur le Danemark, parce que le Danemark, en effet, est un des pays qui principaux soutiens de l'Ukraine, dont une partie de son argent qui sert à sa propre défense, en fait, est donnée directement aux Ukrainiens, et voire pour faciliter l'industrie de défense ukrainienne. Mais au-delà de cet état de fait, l'OTAN est prête, en fait, mais c'est vrai que c'est une mise en alerte soudaine face à une attaque possible de drones sur l'un de ses territoires, et les Baltes, avec lesquels j'en parle régulièrement au Parlement européen, se sentent directement menacés, d'autant que c'est des pays qui sont très peu profonds, 200 km de profondeur, donc si les Russes décident d'attaquer demain matin, c'est vrai qu'ils risquent d'aller assez loin, sachant que ce sont des pays qui ont une armée quand même en nombre très limité, qui n'ont pas forcément d'aviation de chasse, d'où la présence d'avions de pays de l'OTAN ou de pays de l'Union européenne pour les aider à se défendre.
Une réaction, colonel, justement, sur ces déclarations de l'OTAN ce soir, qui se dit « nous nous préparons à la guerre ». Et ça fait suite au survol de drones en Europe. Ce sont des déclarations qui sont assez fortes. « Nous nous préparons à la guerre ».
Bah absolument, il est important de se préparer à la guerre, d'autant que les Russes, je pense, sont dans une idée de pré-guerre, parce que toutes les sanctions économiques qui sont prises par les Européens et les Américains sont à un moment vont contraindre les Russes à agir rapidement, parce qu'un jour ou l'autre, l'opinion publique russe, même si actuellement elle s'exprime pas beaucoup, va faire pression sur le président Poutine. Donc les Russes à un moment vont se retrouver coincés. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. La guerre, elle est globale, elle est totale, et donc les populations sont aussi bien concernées que les chefs d'État, si vous voulez. Et ce que cherchent à montrer, si ce sont les Russes qui utilisent ces drones, qui cherchent à montrer, c'est la vulnérabilité de nos populations, et pas simplement des points sensibles. Bien sûr, des points sensibles aussi, mais on sait que ces points sensibles ont une sauvegarde minimale, ont des gardes minimales. Mais la population sont aussi les supermarchés, ce sont les grandes villes, et des essaims de drones peuvent causer des dégâts importants. On le voit que les Russes, quand ils attaquent l'Ukraine, ils utilisent 800 drones et quelques missiles balistiques, mais les 800 drones, même si un grand nombre ont été détruits par les systèmes ukrainiens, eh bien le restant peut faire détruire des immeubles, et ce sont souvent sont pas des gros drones, ce sont des drones assez petits. Donc je pense que c'est ce à quoi il faut se préparer, et l'OTAN sans doute est-elle davantage prête à une guerre traditionnelle avec des avions, des chars, des hommes sur le terrain, qu'à une protection globale de nos territoires qui traditionnellement sont laissés aux États. Oui. Traditionnellement, c'est aux États d'assurer la sûreté des territoires et la sûreté des populations civiles. Donc c'est là un peu l'ambiguïté de l'organisation atlantique par rapport aux devoirs traditionnels des États pour empêcher des actes terroristes.
Mais surtout que côté russe, même côté chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la masse. Donc même si par exemple vous avez, je ne sais pas, sur 100 drones vous en avez 80 qui vont être abattus, les 20 autres ils vont passer. Sauf que nous ne pensons pas, enfin je ne constate pas que nous pensions en termes de masse.
Général Gomard est d'accord avec ça.
J'alerte tout le monde sur ce sujet-là. J'ai rédigé un rapport d'initiative justement sur le financement de l'industrie de défense axé au financement privé pour ça. Mais en fait, on est en pleine guerre hybride. La guerre hybride, c'est la conquête des esprits qui précède la conquête des territoires. Et on en est là. Donc, est-ce qu'il y aura conquête des territoires ? Nul ne le sait aujourd'hui. C'est difficile de se prononcer. Les Russes, de mon point de vue, n'en ont pas les moyens. Est-ce qu'ils l'auront dans 2 ou 3 ans ou 5 ans ? Ça reste encore une question. C'est difficile de déterminer.
Vous n'avez pas l'air si inquiet que ça ? Parce que c'est quand même pas de bonne nouvelle qu'on
non, annonce, c'est pas une bonne nouvelle. Mais j'allais dire l'OTAN en tant que telle et l'Union européenne. Quand on met, quand on additionne tous les pays, en fait, on a quand même une masse de chars, on a quand même une masse d'hommes, on a quand même une masse de moyens. La vraie question qui se pose aujourd'hui, est-ce que les Américains interviendraient ou non ?
Oui.
Je veux dire, c'est la question en suspens. Et nous, Européens,
c'est une question qui revient très régulièrement.
Intervenir sans les Américains.
Merci, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau.